L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'AJT du local, votre émission quotidienne sur l'actualité en Mayenne. Nous sommes aujourd'hui le mardi 8 décembre. Bonjour Claire.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde. En direct à Laval, pas de brouillard ce matin, soleil, donc pour l'instant tout va bien.
On dirait en plus que tu nous fais un petit info trafic, donc pas d'accident pour le moment. Enfin, on espère, évidemment. Restez prudent, bien sûr, mais effectivement, il fait beau. On voit le soleil même dans le studio. Là, je vois un petit rayon de soleil. Donc on va en profiter. Aujourd'hui, on va parler, Claire, des personnes, donc certaines qui peuvent forcément, comme un peu nous tous, souffrir de ce confinement. On retrouve aussi parmi elles les étudiants. On l'a entendu au niveau national, ils sont plus nombreux en ce moment à demander une aide psychologique. Est-ce que c'est le cas à l'IUT de Laval ? Réponse dans quelques minutes. On va parler aussi du gala, le Games and Learning Alliance, qui a lieu demain, mercredi et jeudi, non pas à l'IUT de Laval comme d'habitude, mais en ligne, confinement oblige. L'occasion de faire le point sur la recherche scientifique concernant les Serious Games, les jeux interactifs. Veuillez m'excuser pour mon accent anglais, mais il y a beaucoup de choses en anglais sur ce sujet. Et la réalité virtuelle, avec de nombreuses innovations à découvrir, vous entendrez ça d'ici quelques minutes. Et puis une nouveauté en fin d'émission, notre première chronique cinéma par l'association Atmosphère 53, avec plein de bons conseils à noter.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité. À vous la parole au Conseil d'agglomération de Laval.
Les élus ont voté hier à l'unanimité l'instauration d'un temps de parole pour les citoyens. Ce sera possible à chaque début de séance en 2021. Il suffit de remplir un formulaire disponible sur le site de Laval Agglo au moins 5 jours avant la tenue de la séance et de préparer une prise de parole de 3 minutes maximum. Autre mesure votée hier par le Conseil d'agglomération, un coup de pouce pour l'achat d'un vélo électrique. 200 euros pour un vélo acheté chez un commerçant de l'agglomération de Laval, sans batterie à plomb, petite précision, une aide attribuée sans condition de ressources.
Les bus lavallois gratuits dès le 2 janvier 2021.
Florian Berco l'avait promis aux dernières élections municipales de Laval, s'il était aussi élu président de Laval Agglo. Tous les bus Tulle et le transport à la demande Tulib seront gratuits le week-end et ce à partir du 2 janvier prochain. Le but, inciter les usagers à moins prendre la voiture évidemment, mais aussi dynamiser le commerce de centre-ville. Il faudra tout de même composter votre billet dans le bus, un billet gratuit à demander directement au chauffeur ou en réservant une carte gratuite nominative sur le site internet des Tulles.
Interpellé avec 400 grammes d'héroïne, un lycéen angevin jugé hier à Laval.
Il a été interpellé au péage de la Gravelle sur l'A81, et ce alors qu'il transportait plus de 400 grammes d'héroïne dans une voiture en direction de Rennes. Placé en garde à vue puis en détention provisoire, le jeune homme regrette son acte. Il va désormais passer 10 mois chez lui, surveillé avec un bracelet électronique. Il a été également condamné à une amende de 15 000 euros, qui correspond à la valeur de la marchandise qu'il transportait.
Deux blessés ce matin dans un accident sur l'A81.
Les faits remontent à 5h ce matin. Une voiture a eu seule un accident sur l'A81 au niveau d'Argentré, dans le sens Mayenne vers Paris. À bord, le conducteur et son passager ont été grièvement blessés. Ils ont été transportés au centre hospitalier de Laval par les pompiers.
135 000 euros pour l'association Solidarité Paysan.
Donné par l'acteur... Entre autres, il était présent l'acteur Guillaume Canet. Il a remis le chèque à l'association Mayonnaise, une somme récoltée grâce au film « Au nom de la terre » dans lequel joue le comédien, lors d'une journée solidaire organisée en septembre 2019 avec 1 euro reversé par entrée. L'association Solidarité Paysan apporte aux agriculteurs un soutien administratif, psychologique, juridique. Elle a été récemment reconnue comme étant d'intérêt général.
Et le Vendée Globe, ça remonte au fur et à mesure. Maxime Sorel s'installe à la 11e place.
Le skipper de Vianby Mayenne a creusé l'écart avec ses poursuivants. Il passera bientôt au large des îles Kerguelen. Et puis le castro-gontarien Fabrice Amedeo, lui, est bien entré dans les mers du Sud. Il occupe toujours la 21e place au dernier pointage à midi.
Et Marie, comment les étudiants lavallois vivent ce deuxième confinement ?
Psychologiquement, on le sait, ce n'est pas facile pour tout le monde, mais les étudiants peuvent être particulièrement touchés. Des cours uniquement en visioconférence, dans une ville loin de leurs proches, peut-être dans la précarité, avec la difficulté de trouver un petit boulot. Lors du premier confinement ce printemps, la psychologue du centre de santé de l'Université du Mans, dont dépend l'IUT de Laval est passée à temps complet, cette psychologue, face à la hausse des demandes d'aide psychologique. Mais en ce moment, la situation est moins alarmante, assure le docteur Sophie Zwickert-Brière. Elle est responsable du centre de santé de l'Université du Mans.
Pour le deuxième confinement, notre psychologue n'a pas vu d'augmentation de son activité, vu qu'elle était déjà elle avait été un petit peu augmentée, et elle arrive à suivre tous les étudiants qui lui demandent. Il y a un délai, on va dire, raisonnable de 2-3 semaines, comme d'habitude. Et pour les étudiants qui auraient un besoin urgent de la contacter, elle garde des créneaux, 1 à 2 créneaux libres par jour. Pour tout ce qui est à côté de tout ce qui est pédagogique, notre équipe au centre de santé a mis en place des chats via nos réseaux sociaux. On a une page Facebook, on a un compte Instagram. On essaye de garder le lien vraiment avec les étudiants, de leur proposer beaucoup de choses. On avait 2 séances de sophrologie pour la gestion du stress hebdomadaire. On les continue en visio conférence avec notre sophrologue. Notre diététicienne a mis en place aussi des ateliers cuisine, un petit peu du type de ce que faisait Cyril Lignac, depuis déjà le premier confinement, pour essayer d'aider les jeunes à s'organiser de façon à ne pas rester la tête dans les dossiers ou dans la visio tout le temps. Sur Laval, la plupart des étudiants ont leurs parents dans le département ou pas trop loin, et la plupart sont rentrés aussi chez eux. Et je pense que là, au deuxième confinement, les étudiants ressentent plutôt une fatigue psychologique, un peu comme tout un chacun. Je le vois aussi chez les personnels, les enseignants. Ils ont hâte aussi que ça reprenne. Parce que ne plus avoir de liens sociaux, être toujours avec écran interposé, c'est effectivement inhabituel, anormal. C'est ressenti comme quelque chose d'anormal pour tout un chacun. Ça, c'est vraiment quelque chose de formidable, des universités à taille humaine, où tout le monde se connaît, tout le monde peut avoir accès rapidement et aux professionnels de santé, aux enseignants, etc. Et ça, je pense que oui, c'est quelque chose de super.
Selon le docteur Sophie Zwickert-Brière, la priorité, c'est d'accompagner les étudiants internationaux en première année ou précaire. À Laval, une infirmière est désormais présente toute la semaine. Et puis, autre conseil, si vous ne vous sentez pas bien, allez voir votre médecin traitant si possible. Prendre rendez-vous donc avec la psychologue du centre de santé ou une assistante sociale, et où d'ailleurs, ou encore contacter la plateforme téléphonique Nightline. Des serious games, des jeux interactifs pour apprendre les fractions, recenser des espèces d'arbres autour de soi ou favoriser la coopération entre élèves. On en parle d'ici quelques minutes, juste après avoir écouté Benjamin Sixou avec Cab Calloway's Flow.
Bonding in the boring area, down the hall and never hurry up. That's the feeling of my lonely days. Try to catch the energy who fell from up there. This time I won't have to give up, hopefully. Don't try to mess up, you better catch me. I remember melody turning insane, and the voices came to me, loud in my brain. That's the way Cab Calloway flows. That's the way Cab Calloway flows. Calloway flows. That's the way Cab Calloway flows. All the fellas used to call me liar, but I swear I didn't light the fire. See through the mist, I have to say, fuzziness is real, but I'm the main, and that's it. This time I won't scratch the bottle till the last drop. I'll be
up for the bottle. Even if I'm cold, I believe in every moment of pain. Even in the misery, I say never again. Galloway flows. That's the way Cap Galloway flows. That's the way Cap Galloway flows. That's the way Cap Galloway flows. Flows. That's the way Cap Galloway flows. That's the way Cap Galloway flows. That's the way Cap Galloway flows.
Benjamin Sixou sur l'autre radio, vous êtes toujours en train d'écouter l'AGT du local. Et sachez que ce mercredi et jeudi a lieu la 8e édition de la Gala, la Games and Learning Alliance, organisée par l'IUT de Laval et plus précisément le LIUM, le laboratoire informatique de l'Université du Maine. 2 jours pour faire le point sur les recherches scientifiques en termes de jeux interactifs et de réalité virtuelle au niveau international, d'où le nom en anglais. Isa Marfici est maître de conférence à l'IUT de Laval. Elle travaille au LIUM et elle va nous éclairer, justement, nous en dire un peu plus sur l'événement et ses intérêts.
C'est un événement qu'on organise cette année à Laval, mais donc, comme vous avez dit, c'est la 8e édition ou 9e, ça dépend un peu de comment on compte la première. C'est un événement, donc c'est un colloque scientifique qui est organisé tous les ans et qui est porté par le Serious Game Society, qui est une société savante européenne qui travaille sur les jeux éducatifs et comment ils peuvent être utilisés dans l'éducation, mais aussi pour la formation professionnelle.
Et qu'est-ce qui avait été à l'origine de la création de l'événement ?
Ça date d'il y a un certain temps, il y a presque 10 ans maintenant. Il y a eu un engouement pour les jeux éducatifs, parce qu'on s'est rendu compte que les jeux, c'était pas seulement pour les enfants, et qu'on pouvait très bien utiliser les ressorts ludiques, comme la motivation, le fait qu'on soit actif, de façon à faire de l'innovation pédagogique aussi aux autres niveaux de l'éducation, que ce soit au collège, au lycée, mais aussi dans la formation professionnelle, où ils ont des atouts non négligeables.
Et alors là, l'idée, c'est de faire un peu un point sur l'avancée, montrer les innovations. Quel est l'objectif ?
Oui, c'est ça, en fait. Comme tous les colloques scientifiques, des chercheurs du monde entier ont envoyé leurs contributions sous forme d'articles de recherche. Donc, c'est des articles assez longs, qui font 10 pages, où ils expliquent leurs recherches, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, qu'est-ce qui a marché dans certains cas ou pas. Donc, ça peut être des innovations sur les jeux éducatifs qui ont été créés dans certains contextes. Ça peut aussi être des innovations techniques ou des innovations sur la façon dont on utilise le jeu dans un contexte d'apprentissage. Donc il faut savoir que c'est un colloque scientifique en informatique, mais aussi en sciences humaines et sociales. Donc tous les ans, les chercheurs, on a une centaine de chercheurs qui envoient des articles à la conférence. Les articles sont relus par leurs pairs, donc aussi des chercheurs dans le même domaine, qui vont les évaluer. Et seulement les meilleurs articles seront sélectionnés pour la conférence. Et les articles qui ont été sélectionnés pourront être présentés lors de cette conférence. Donc, en quelque sorte, vous avez le meilleur de la recherche qui a été faite en un an sur les jeux éducatifs.
Donc c'est forcément aussi pour vous, chercheurs, mais est-ce que c'est accessible aussi au public, parce que ça peut paraître un peu compliqué de l'extérieur ?
Oui, alors ce qui est intéressant cette année, c'est que vu les contraintes liées au coronavirus et le fait que toutes les universités soient fermées, on a été obligé de faire une édition en ligne. Donc ça peut être vu comme une contrainte, puisque c'est vrai que d'un point de vue technique, c'est plus compliqué de présenter devant d'autres personnes quand on n'est pas physiquement là. Mais je pense qu'on a trouvé une bonne solution. Grâce à notre partenariat avec le Laval Virtual, on a pu utiliser leur monde qui s'appelle le Laval Virtual World et qui est accessible gratuitement à tous. Donc on espère, en tout cas moi j'espère que cette édition sera une bonne occasion de montrer nos recherches et de sortir du cercle un peu académique dans lequel on est habituellement et de s'ouvrir à un public large. Alors évidemment, les présentations seront en anglais, donc c'est la petite difficulté, mais sinon il y a aucun problème. La conférence sera totalement libre et accessible à n'importe qui. Il suffit de s'inscrire sur le site et on vous enverra les informations pour installer le Laval Virtual World et pour venir à la conférence. En fait, on a un programme sur les deux journées. Il y a des temps forts dans les conférences. Le matin du 9, on a une keynote speaker. Donc une keynote, c'est un chercheur de renom international. Donc là, il s'agit de Anna Cox, qui travaille pour le Centre Interactif à Londres, qui viendra présenter. Donc ça sera à 9h30. Donc la deuxième journée, le 10 décembre à 9h30, on aura une conférence de Anne-Gwen Bossé qui travaille au CERV à Brest. Donc le CERV, c'est le Centre Européen de Réalité Virtuelle. Ils ont énormément de projets qui sont vraiment superbes. Donc je pense que ça sera tout à fait accessible à un grand public. Et puis l'après-midi du 10, on a une exposition internationale qui sera accessible à tout le monde, et je pense que ça sera très intéressant de se balader. Donc c'est comme une exposition en vrai. Il y aura des stands qui seront tenus soit par des scientifiques internationaux, soit par des entreprises, et on a cette année pas mal d'entreprises françaises qui présentent soit des service games, donc des jeux éducatifs, soit des outils de réalité virtuelle ou de réalité augmentée ou de réalité mixte pour l'apprentissage.
Et parmi toutes ces entreprises, justement, et en tout cas tous ces projets qui sont présentés, est-ce qu'il y en a qui viennent de la Mayenne ?
Oui, absolument. Donc on a Laval Mayenne Technopole, qui est un de nos partenaires. On a aussi le Conservatoire National des Arts et Métiers, donc c'est l'école qui est juste à côté aussi, sur le même campus que nous. On a l'Institut Arts et Métiers de Laval, présenté par Simon Richir, et il y en a une dernière qui font un jeu de plateau, qui est pour la formation pour le coaching, qui est très intéressant. Donc c'est une start-up qui est aussi de la région et qui s'appelle WYS Game, WYS, WYS.
Mais ça peut être donc à chaque fois, en tout cas, sur des projets et des objectifs très variés.
Ah oui, tout à fait. Les jeux éducatifs peuvent être utilisés dans des domaines, absolument tous les domaines de l'éducation et de la formation professionnelle. On a des jeux, par exemple, pour les enfants, pour apprendre les fractions, jusqu'à la formation professionnelle très pointue pour, par exemple, faire de la maintenance d'éoliennes. Donc, c'est vraiment, il y a tout un panel de serious games qui existent.
Et est-ce que, justement, votre laboratoire, le LUM, travaille sur certains projets en ce moment ?
Oui, absolument. On a plusieurs projets en cours. Vous pouvez aller les voir sur notre site internet. On a notamment un projet pour les fractions, pour les enfants. On travaille avec une association parisienne qui propose un jeu sur plateau qui s'appelle l'Atelier des potions. Et on est en train de travailler avec eux sur une version en réalité augmentée pour afficher des informations par-dessus les pièces qui sont manipulées par les enfants et pour les aider dans la résolution des problèmes des fractions. On a un projet ANR qui s'appelle Rêverie. L'objectif, c'est d'aider les personnes à reconnaître les arbres qui nous entourent, parce qu'on n'est pas forcément très bon en botanique. On propose différentes applications sur smartphone pour cet objectif-là. Une des applications permet à des enseignants ou des gérants de parcs botaniques de créer leur propre chasse au trésor pédagogique en se basant sur les arbres qu'ils ont à leur disposition. Et on a une autre application qui est plutôt dans un but de science citoyenne, où l'objectif, c'est d'encourager les personnes à faire des relevés botaniques, donc à identifier des arbres, à dire ici il y a un chêne, ici il y a un être, etc. Et ce sont des données qui sont collectées et qui sont mises à disposition des botanistes de France pour faire des statistiques ou des relevés, et voilà, pour prendre des décisions aussi au niveau territorial sur les zones qui doivent être reboisées ou voilà. Alors, on fait de la recherche, donc ça veut dire que on n'arrive pas forcément à faire des produits qui fonctionnent. L'objectif de la recherche, c'est vraiment de tester quelque chose d'innovant, de nouveau. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. En termes de recherche, même quand ça marche pas, c'est très intéressant puisque ça permet, on écrit des articles justement, et puis ça permet aux chercheurs suivants de ne pas faire les mêmes erreurs ou de chercher là où on n'a pas encore, enfin de faire des choses qui n'ont pas encore été testées. D'un point de vue grand public, c'est vrai que c'est toujours mieux quand on a un projet qui fonctionne, mais voilà, il faut bien prendre en compte qu'on fait de la recherche et qu'on n'est pas dans de la production d'outils de masse qui fonctionnent absolument. Par contre, ça arrive dans certains cas, je dirais à peu près la moitié des projets, qu'on arrive à un produit qui fonctionne bien et qui est abouti, assez abouti en tout cas pour le diffuser au grand public. C'est d'ailleurs le cas pour un de nos jeux qui s'appelle Turtle Tablet, qui est une application pour apprendre les bases de la programmation informatique. Vous savez que maintenant, c'est une matière qu'on voit dès le collège. Et donc, on a développé en partenariat avec des enseignants une application qui permet de voir les bases de l'informatique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une application collaborative qui a été développée pour que les élèves travaillent à deux sur une tablette en utilisant des objets tangibles. C'est des objets qui sont imprimés avec une imprimante 3D et qui sont reconnus par la tablette. Et on s'est rendu compte d'un point de vue recherche que l'utilisation de ces objets tangibles favorisait en tout cas la collaboration entre les élèves, alors que si on utilise des interactions tactiles classiques, eh bien les élèves ont tendance à ne pas collaborer. Il y a toujours un élève qui est un peu meilleur, qui va faire le travail, et puis l'autre qui va pas regarder ou enfin qui va faire autre chose ou voilà, ne pas s'intéresser à l'activité en cours. Donc d'un point de vue recherche, c'était très intéressant de travailler cet aspect interaction pour favoriser les apprentissages. Et puis ce projet a abouti à un produit qui peut être utilisé par le grand public.
Donc ça fait partie en tout cas de tous les projets qu'on a évoqués. Je me demandais, est-ce que vraiment vous ressentez depuis, alors je disais une dizaine d'années, mais peut-être même un peu moins, vraiment une accélération au niveau de la recherche, au niveau aussi des projets, de la finalisation des projets autour justement de ces jeux éducatifs?
Alors je ne sais pas s'il y a une accélération, en tout cas on nous encourage en tant que chercheurs à faire des produits qui peuvent être commercialisés ou gratuits. Hein. D'ailleurs, en l'occurrence, nous on ne commercialise jamais nos produits. En tout cas, moi j'estime que je suis payée par le gouvernement. Les savoirs que je produis et les outils que je produis dans le cadre de mon travail sont des biens communs pour améliorer l'enseignement et donc voilà, ils sont tous gratuits et open source la plupart du temps. C'est vrai qu'on nous encourage quand même de plus en plus à arriver jusqu'à des projets finis. Je sais que de plus en plus de doctorants, quand ils travaillent, donc des doctorants, ce sont des jeunes chercheurs qui travaillent sur un projet pendant 3-4 ans. Et je sais que de plus en plus lancent après leur entreprise, leur start-up. Mon doctorant qui a fini il y a 3 ans, il s'appelle Aous Karoui, a lancé sa propre start-up. Et il a été accompagné dans ce processus par l'université où il a fait sa thèse. En tout cas, il y a de plus en plus de besoins d'outils numériques pour la formation. On voit bien ces derniers temps, c'est devenu indispensable. Les gens ont changé d'avis sur le jeu. Ils voient qu'on peut jouer, même si on n'est pas des enfants. C'était un sujet qui était assez compliqué il y a plus de 10 ans. Je voudrais dire il y avait des personnes qui étaient sérieuses, qui disaient non, on peut pas jouer, c'est pas sérieux, en cours, en formation, on perd du temps à jouer. Mais je pense que les recherches ont montré que c'était pas du tout le cas, qu'on avait tout intérêt à utiliser des innovations pédagogiques comme le jeu pour attirer l'attention des élèves et des étudiants et pour qu'ils s'investissent eux-mêmes dans leur propre apprentissage et pour qu'ils apprennent mieux tout simplement.
Sans doute peut-être aussi là avec tout ce qui est confinement, ça doit favoriser ces mondes virtuels intelligents entre guillemets.
Oui, effectivement, ça amène en tout cas des nouvelles perspectives. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que un jeu éducatif, alors il y a certains jeux éducatifs qui peuvent être créés pour être utilisés tout seul à la maison. C'est pas tellement le cas des outils ou des projets sur lesquels on travaille. Nous, on est vraiment, on réfléchit vraiment aux outils avec les enseignants et pour les enseignants. Donc on n'est pas du tout dans l'optique de remplacer les enseignants. Donc les enseignants seront toujours extrêmement importants. C'est juste qu'on pense qu'on peut leur apporter des outils pour mieux amener certains concepts ou pour suivre leurs étudiants d'une autre façon, par exemple. J'ai des collègues qui travaillent sur des outils de suivi d'étudiants qui permet de savoir, qui permet de faire remonter des informations sur les élèves qui suivent bien, qui font bien leurs exercices, mais aussi ceux qui décrochent, par exemple, ou ceux qui ont une activité irrégulière sur les outils. Et ça permet d'alerter les enseignants sur les difficultés que les élèves peuvent avoir. Et ça peut aussi fonctionner même à distance.
Il n'est pas trop tard pour vous inscrire pour l'événement si vous êtes intéressé. Il suffit de taper GalaConf dans votre moteur de recherche, d'aller sur l'onglet Registration, et oui, ça continue l'anglais et mon accent incroyable, remplir le formulaire et aller sur l'onglet Laval Virtual World, et c'est parti. La conférence a lieu, on le rappelle, demain et jeudi toute la journée. On revient d'ici quelques minutes après avoir écouté Volo, qui avec son morceau La Crise.
Sur Facebook, pourquoi j'ai l'impression de n'avoir jamais le temps de rien vraiment? Pourquoi j'arrête pas d'arrêter de fumer pour la dernière fois? Pourquoi je voudrais savoir dans quel état est mon foie? Pourquoi je me demande pourquoi je ne me sens pas bien en ce moment? Pourquoi j'ai des potes qui disent j'ai surkiffé, alors que moi je dis encore j'ai beaucoup aimé? Pourquoi je préférais quand on faisait plus souvent l'amour? Pourquoi je me demande pourquoi je bosse? Pourquoi j'ai envie de pleurer quand je pense à ce qui attend mes gosses? Pourquoi je ne sais plus vraiment si on s'aime toujours? C'est peut-être la crise classique, celle de la quarantaine, comme elle est belle existentielle, le bon cliché de classe moyenne typique, celle qui vaut bien la peine, sauf fond de cheveux qui se grisent et en attendant la prochaine crise classique, celle de la quarantaine, comme elle est belle existentielle, le bon cliché de classe moyenne typique, celle qui vaut bien la peine en attendant la prochaine. Pourquoi j'ai des potes qui trompent leurs femmes tout le temps, alors que moi des fois non sérieusement ça dépend? Pourquoi je m'endors dès que je conduis plus de 40 bornes? Pourquoi je ne me souviens plus de ce que je voulais dire, de ce que j'avais à faire, de ce que je devais retenir? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà tout vu sur YouPorn? Pourquoi je m'énerve autant dans les embouteillages? Pourquoi je ne supporte plus du tout les mariages? Pourquoi mes amis sont aussi les amis de mes parents? Pourquoi je me réveille encore pour des fringales? Pourquoi je me retrouve sur des sites de rencontres extra-conjugales? Pourquoi mes grands-parents sont toujours vivants? C'est peut-être la crise classique, celle de la quarantaine, comme elle est belle existentielle, le bon cliché de classe moyenne typique, celle qui vaut bien la peine, sauf fond de cheveux qui se grisent et en attendant la prochaine crise classique, celle de la quarantaine, comme elle est belle existentielle, le bon cliché de classe moyenne typique, celle qui vaut bien la peine en attendant la prochaine. Pourquoi je ne sais plus boire sans me mettre minable? Parce qu'un repas de famille me paraît interminable. Pourquoi des fois la nuit je me réveille parce que je me souviens que je vais mourir? Pourquoi j'ai des potes que je ne rappelle jamais? Pourquoi la vie me demande ce que j'en ai fait? Pourquoi je n'arrête pas de repousser à plus tard le moment où je recommencerai à courir? Pourquoi j'ai la gerbe dès que je fume de l'herbe? Pourquoi mon gamin écoute surtout de la merde? Pourquoi j'ai l'impression de ne plus croire en rien vraiment? Pourquoi on ne se prévoit plus du tout de temps juste tous les deux? Pourquoi je fais semblant de ne pas voir que tu m'en veux? Pourquoi je me demande pourquoi je ne me sens pas bien en ce moment? C'est peut-être la crise classique, celle de la quarantaine, comme elle est belle existentielle, bon cliché de classe moyenne typique, celle qui vaut bien la peine, sauf fond de cheveux qui se grisent et en attendant la prochaine crise.
les belles existentielles, bon coucher de classe moyenne. Typique, c'est qui vaut bien la peine, ce fond de cheveux qui se grise et en attendant la prochaine.
C'était donc Volo avec son morceau Crise sur l'autre radio. Vous écoutez toujours l'émission L'Agité du local. Et aujourd'hui, une grande première, une chronique cinéma. Alors, ce n'est pas incroyable dans le paysage radiophonique, mais pour nous, c'est notre première de cette saison. Et même si les salles sont fermées jusqu'au 15 décembre, il ne faut pas s'empêcher de profiter de quelques petites pépites du 7e art dénichées par l'association Atmosphère 53.
En attendant la réouverture des salles obscures le 15 décembre prochain, Atmosphère 53, association de promotion du cinéma dans le département, vous propose de redécouvrir à travers les critiques ciné-confinées des salariés des films disponibles en VOD et toujours en lien avec la programmation à venir. La première critique est celle d'Estelle Chenet, chargée des dispositifs scolaires d'Atmosphère 53, sur le film Brandan et le secret de Kells de Tom Moore et Nora Toomey. Ce film est un voyage initiatique qui suit le parcours de Brendan, un jeune moine prêt à tout pour sauver son abbaye menacée par les Vikings. Il va faire la rencontre d'un célèbre enlumineur qui se trouve être le gardien d'un livre précieux qui enferme de multiples secrets. Contes, mythes et légendes celtes rythment ce film d'animation conçu de manière artisanale. Forme entrelacée, allégorie visuelle s'inspirant du monde de l'enluminure, le film a une véritable identité. Cette œuvre atypique a le même univers que Le Peuple Loup, des mêmes auteurs, qui sortira dès la réouverture des salles, pour le plaisir des petits comme des grands, pour un somptueux voyage dans la comté de Kilkenny. Brendan et le secret de Kells est disponible sur la toile VOD pour 3,99€. La deuxième critique est celle d'Audrey Benesse, directrice artistique et programmatrice d'Atmosphère 53, sur le film Ava de Léa Musis. Il fait écho à l'imminente sortie de Slalom, où l'on retrouve la jeune actrice Noé Habitat en liste pour le César du meilleur espoir féminin. Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l'océan quand elle apprend qu'elle va perdre la vue plus vite que prévu. Sa mère décide de faire comme si de rien n'était pour passer le plus bel été de leur vie. Ava affronte le problème à sa manière. Elle vole un grand chien noir qui appartient à un jeune homme en fuite. Grandir, c'est devenir aveugle. Dans un monde où le visuel domine, la cécité croissante d'Ava est une terrible source d'angoisse pour elle. Mais Ava, mystérieuse guerrière, va faire du noir le champ des possibles et le moteur de sa quête de liberté et d'aventure. Grâce au noir, elle apprend à lâcher prise et s'initie à la sensualité. Film organique, sensoriel, qui convoque la lumière et la matière, Ava est un film magnifique sur l'adolescence et le retour au primitif. Rien que pour cette scène incroyablement solaire où Ava danse et chante au milieu d'une route sans fin, sur la musique d'Abouna et Mariam, Sabali, ça vaut le détour. Le lien entre ces deux films, Slalom et Ava, ce sont les deux premiers longs-métrages de talentueuses jeunes réalisatrices, diplômées de la FEMIS, arguant d'un sens aiguisé de la mise en scène, deux bols d'air dans le cinéma français. Le film Ava est disponible sur Arte Boutique pour 1,99€.
Merci Clara pour cette chronique qui sera à retrouver désormais tous les mardis midi en fin d'émission. Et on termine, c'est pas tout à fait la fin, puisqu'il nous reste encore notre petite rubrique initiative, Claire. Et on part pour commencer du côté de Sainte-Suzanne, où un restaurant vous propose des plats uniques à emporter.
Et oui, Carole Marie Goutel est la gérante de Café Couette qui vous propose 3 fois par semaine des plats à emporter, mais aussi une livraison possible pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. Un moyen aussi pour la gérante de garder le contact avec ses clients. Au menu, les lundis, mercredis et vendredis vous est proposé soit par SMS, soit lors de la précédente livraison, pot-au-feu, tagine, bourguignon, daube et autres très plats qui donnent très très faim. Le samedi, des huîtres sont disponibles à partir de 11h30. Le téléphone pour réserver est 06 99 26 83 99.
C'est pas comme si c'était en plus le moment de manger. Merci Claire en tout cas, on retient bien. Et puis on peut aussi profiter en ce moment d'une exposition pas comme les autres à Gèvres.
Et oui, Christian Poincheval est artiste et a eu l'idée de créer une exposition originale car visible depuis la route et Covid oblige sans quitter sa voiture. Elle s'intitule « Où est le Père Noël ?» et est constituée de matériaux récupérés comme de la tôle. Il y a aussi des œuvres mobiles recto verso qui changeront au gré du vent et des créations autour du jouet. C'est dans son jardin qu'il a installé cette immense vitrine où il expose ses créations. C'est pour lui une façon de nous dévoiler un peu de son histoire personnelle car dans sa famille, ils ont toujours créé leurs propres cadeaux de Noël. De quoi donner des idées.
Et oui, et décorer vous-même votre jardin ou votre maison en tout cas. Et il y a aussi pour Noël de nombreuses opérations. Et là, on va parler d'une opération boîte de Noël solidaire pour de nombreuses associations mayennaises.
Et oui, les boîtes de Noël, ce sont des boîtes à destination des personnes les plus démunies que vous allez confectionner en y mettant quelque chose de chaud, à manger, un produit d'hygiène, un objet de loisir et un petit mot. Et bien mettre le tout dans une boîte à chaussures par exemple et surtout l'emballer comme un vrai cadeau de Noël. Et enfin indiquer pour quel type de personne elle est adressée. Les 8 maisons de quartier de Laval vous invitent à déposer vos boîtes directement dans leurs locaux. Elles se chargeront de les donner au Secours Populaire de la Mayenne, à l'association Porte Ouverte et à l'association Revivre. Dans le cas du Centre communal d'action sociale, ce sont les bénéficiaires du RSA qui se chargeront de la confection des boîtes pour ensuite les donner à l'association Revivre. Pour le Centre Lavallois d'éducation populaire, vous pouvez déposer vos boîtes directement au centre, au 8 impasse Haute Chiffolière à Laval. Les jours de dépôt sont à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 décembre. Il faut les appeler avant de s'y rendre au 02 43 56 41 31.
Merci Claire pour cette brève essai, toutes ces initiatives très, très complètes que vous pouvez donc réécouter une fois que cette émission sera terminée en podcast sur notre site l'autreradio.fr. C'est la fin de notre émission L'Agité du local. Merci beaucoup Claire.
Merci Marie, merci tout le monde et à demain.
Et puis effectivement, à demain, mais avant ça, bien sûr, sur notre antenne à suivre à 20h, il y aura l'émission The Voice of Cassandre, comme tous les mardis, suivi à 21h de Frères de Chaussures. Et puis nous, donc, l'équipe de l'Agité du local, on se retrouve demain à 12h15 avec Claire. Bon après-midi et bonne journée à tous.
Reportage, invité, interview.
Voilà, c'est l'Agité du local.